Voilà, et Monsieur Soablès, est-ce que vous m'entendez depuis la France?
Oui, je vous reçois bien.
D'accord, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. Je rappelle, nous sommes en direct actuellement sur africamidi.com. Également, nous sommes en direct sur le live Facebook de la radio et sur la page TikTok. Bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. Vous êtes responsable de communication du FNDC, c'est le Front National pour la Défense de la Constitution en République de Guinée. Et vous êtes aussi un ex-secrétaire général de Ablogi. Ablogi, c'est l'association des blogueurs de Guinée. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, exactement.
Parfait, parfait. Alors, avec vous, je veux aborder trois sujets. Le FNDC, la gestion de la Guinée par le CNRD de Mamadi Doumbouya, colonel dorénavant, devenu général. Et ensuite, nous parlerons brièvement de la CEDEAO et du côté du Sénégal, la crise politique que ce pays connaît aujourd'hui. Monsieur Sow, 2 ans après l'arrivée de Doumbouya et le CNRD, quelle est la situation, en peu de mots, là où on en est aujourd'hui?
Mais disons que il faut que nous soyons un peu honnêtes parce que et la vérité est que la venue de Doumbouya et sa clique était vraiment une volonté pour l'ensemble des peuples de Guinée. Chacun voudrait que cet événement arrive parce que à un certain moment les gens étaient vraiment embastillés et personne ne pouvait s'exprimer librement à l'époque. Et malheureusement pour nous, ce qui aurait dû être la solution est devenu aujourd'hui plus le problème. Parce que depuis l'avènement de la junte au pouvoir, les premiers mois ont été salués, les premières décisions ont été salutaires, notamment la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, et puis entre autres, le semblant de lutte contre le détournement et les prévarications qui avaient été entamées. Malheureusement, au fur et à mesure, nous avons vu que la vérité était que ce sont des gens qui sont venus, pas que parce que le peuple le souhaitait, mais finalement c'est parce que eux-mêmes ne se sentaient plus dans le système qu'ils avaient servi à un moment pour bâillonner le peuple. Et ça n'est suivi tout ce qui s'est suivi pendant ces 2 années. Et vous trouverez aujourd'hui que les libertés publiques, la restriction de l'espace civique, beaucoup plus reculé que avant 1990, parce qu'il faut le dire clairement. Après la dictature de Sékou Touré, vous avez vu qu'à l'avènement de Conté, il y a eu une ouverture et puis le pays a fait face au multipartisme. Malheureusement, depuis 1990, beaucoup d'espoirs ont été déchus et cette fois-ci, c'est pire. Parce que ce sont des jeunes de notre génération qui sont au pouvoir, qui étaient censés apporter une nouvelle vision pour le pays.
Je suis en train de sentir une forte déception de votre part.
Oui, absolument, je suis déçu, comme je le disais tantôt, parce que ce sont des gens de notre génération qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire, la plupart de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas connu la période des indépendances, n'ont même pas connu aussi bien le régime de Sékou Touré. Certains même étaient nés après le décès de Sékou Touré, d'autres après même la prise du pouvoir de Conté, dans les années 90, dans les 85 et autres, et que cela se comporte aujourd'hui comme déjà de la période de l'indépendance, je trouve que c'est déplorable, surtout que le monde aujourd'hui est un monde très ouvert, est un monde compétitif. Et à notre avis, c'est des gens qui ont étudié avec nous, qui ont étudié dans les mêmes écoles que nous, mais dans les mêmes écoles que les autres dirigeants de la sous-région. Ça veut dire que, en vérité, il faut le dire, c'est notre génération qui gouverne le monde aujourd'hui, qu'on ne devrait pas se comporter de la manière dont cela se comporte dans notre pays.
Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela, monsieur?
Bon, disons que ce qui n'a pas fonctionné, c'est ce qui n'a jamais fonctionné en Guinée. C'est que généralement les gens y viennent avec des masques. Et une fois au pouvoir, dans la gestion du pouvoir, ils se révèlent. On dit que le pouvoir révèle l'homme. Et malheureusement, en Guinée, c'est à quoi nous assistons à chaque fois que des gens sont au pouvoir. Parce qu'il ne faut pas occulter que, je le répète souvent, c'est que Le peuple de Guinée est un peuple très résilient, est un peuple combatif, est un peuple qui se bat beaucoup pour ses droits. Mais malheureusement, le peuple aujourd'hui est à des grands dilemmes parce que hier, ils peuvent soutenir des gens et une fois que ces personnes-là sont au pouvoir, ces personnes se révèlent l'extrême contraire de ce qu'ils avaient défendu avec ce peuple. Donc, ça met aujourd'hui le peuple dans la tourmente, ça fait que le peuple se perd et se dit est-ce que nous ne développons pas des échelles pour des gens qui sont assoiffés du pouvoir et qui, une fois au pouvoir, en vérité, ne se préoccupent d'eux-mêmes que du peuple de Guinée. Et l'autre aspect pour moi également, c'est que il y a un véritable souci de leadership, mais aussi de compétences au niveau de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Les gens, ils peuvent avoir la volonté, ils peuvent avoir entre griffes une certaine once de patriotisme, mais disons-nous la vérité, quand vous n'avez pas la compétence de la gestion, vous ne pouvez pas gérer. Vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde, vous ne pouvez pas. Et malheureusement, ceux qui sont là, et la plupart d'entre eux, n'ont aucune expérience de gestion et n'ont aucun parcours. Et par le concours de l'histoire, ils se sont retrouvés à des postes de responsabilité. Et malheureusement, ils ne prennent pas en compte l'enjeu et ils ne voient pas la nécessité de connaître leurs limites pour éviter que le pays bascule.
D'accord. Alors, Ablaise, je suis sur le site de FNDC, c'est fndcguinée.org, et je vois des documents, entre autres, la charte de la transition, une liste des victimes de la transition. Et est-ce que vous pouvez... Là où on en est aujourd'hui, nous sommes le 11 février. Est-ce que vous avez une idée du bilan au niveau de violences sur la question des droits de l'homme, au niveau des personnes tuées, au niveau des manifestations, parce qu'il y a plusieurs manifestations organisées par le FNDC et avec d'autres organisations. Est-ce que là où on en est aujourd'hui, il y a un petit bilan, quelques chiffres qu'on peut avoir de votre part, et puis dans la même logique, les départs en exil, nous savons qu'il y a beaucoup d'opposants aujourd'hui du CNRD, des opposants politiques, des membres du CNRD, du FNDC, qui sont en exil. Je ne sais pas si vous l'êtes aussi. J'aimerais avoir votre avis sur ces deux questions.
Oui, justement, comme vous l'avez dit, en effet, il y a ce site du FNDC que nous avons relancé il y a quelques jours, c'est-à-dire au mois de janvier. Et parce que à l'époque, le site que nous avions contre le troisième mandat avait sauté. Et finalement, il fallait refaire notre site et puis prendre en compte aussi les nouveaux enjeux. Donc, nous l'avons lancé en début janvier, là, et nous l'avons lancé. Si vous ouvrez le site, vous voyez déjà qu'il y a le chronogramme de la transition. Nous travaillons dessus depuis janvier 2022. Et nous avons pris en compte un peu tout ce qui est en train de se passer au cours de cette transition. Comme vous l'avez dit, nous essayons de suivre le chronogramme qui a été signé entre la CDAO et la junte militaire et nous avons lancé un chrono sur le site que vous voyez quand vous ouvrez le site. Et ce chrono-là, le chrono permet de savoir combien de temps nous reste de cette transition qui a été... arrêté en commun accord entre la CDAO et la junte militaire au pouvoir. Parlant des victimes, il faut les déplorer. Il faut savoir que depuis l'avènement du CNRD, il y a eu plusieurs manifestations qui ont été organisées et par le FNDC et par les forces vives, mais également des manifestations spontanées des citoyens pour des problèmes sociaux qui ont eu lieu à Conakry, mais dans certaines villes aussi de l'intérieur du pays. Il faut déplorer que 41 personnes ont été tuées de ce que nous avons répertorié. Je crois qu'il peut y avoir plus parce qu'il y a des personnes qui ont été blessées pendant des manifestations, qui sont allées dans des hôpitaux et il y a des personnes qui peuvent se succomber sans qu'on ne le sache. Mais ce qui a été répertorié, pour le moment, il y a 41 personnes qui ont été tuées par le CNRD. Et c'est triste de le dire parce que quand je le dis aujourd'hui, je le dis avec assez de pincement de cœur, surtout que le discours du 5 septembre était que il y a eu trop de morts, il y a eu trop d'injustices, il n'y en aura plus. Et on ne va plus se battre pour ne rien, on ne va plus assassiner des Guinéens pour la politique. Et malheureusement aujourd'hui, pour la phobie et la boulimie du pouvoir, pour conserver son pouvoir, les Guinéens aujourd'hui ne peuvent même plus s'exprimer. Dès que vous vous exprimez, on vous tue. et des jeunes à la fleur de l'âge ont été assassinés par le CNRD. Et souvent même dans la répression des manifestations, vous avez vu qu'il y avait l'armée dans la rue, et l'armée qui n'est pas censée être une force de maintien d'ordre. Et au-delà de l'armée, il y a eu des unités spéciales, notamment les membres de la garde présidentielle qui font le maintien d'ordre et qui participent souvent à assassiner des gens. Et pire, une des victimes même a été assassinée par le cortège du président de la transition, notamment le chef de la junte, colonel qui est devenu général aujourd'hui. Donc il y a assez de choses. Si vous allez sur cette liste, vous allez voir les noms des victimes, vous allez voir les causes des morts et puis la date de l'assassinat et tout ça. C'est vraiment triste, c'est vraiment déplorable que on en revienne à ça à chaque fois que les citoyens réclament le minimum, c'est-à-dire un droit, le droit à la manifestation, le droit à réclamer quand on n'est pas d'accord par rapport à ce qui est en train de se passer. Et vous pouvez laisser votre enfant aujourd'hui qu'il parte à l'école, vous n'êtes pas sûr qu'il revienne. Et c'est bien dommage. Et
Effectivement.
au-delà de ces morts, vous avez vu qu'aujourd'hui, en Guinée, les médias sont muselés. Certains médias ont fermé.
Effectivement. Effectivement, il y a des médias qui ont fermé, il y a des
Oui.
émissions qui ont été tout simplement
Oui.
arrêtées, et
Oui.
puis
Oui.
on a des
Oui.
journalistes aujourd'hui aussi qui sont
Oui.
emprisonnés, en
Les
l'occurrence,
journalistes
sur
sont
des
emprisonnés, il y a des cartes de presse qui ne sont pas délivrées à certains journalistes. Il y a des annonceurs qui sont sonnés de retirer les publicités avec certains médias, alors que ces médias vivent de ces publicités-là. Et aujourd'hui, les manifestations sont interdites depuis plus de 2 ans, alors que la charte de la transition, son article 8, nous dit clairement que tous les droits de l'homme doivent être respectés. La Guinée, malheureusement, ne les respecte pas. Et il n'y a plus de dialogue entre les forces vives et la junte au pouvoir. En fait, rien n'est fait pour apaiser la situation. Et au-delà de cela, vous avez vu que, et vous le rappelez tantôt d'ailleurs, que plusieurs personnes sont en exil, et que ce soit des partis politiques, des politiciens, des acteurs de la société civile, des journalistes, beaucoup plus les citoyens pro-démocratie animaux, qui sont aujourd'hui empêchés de voir leur famille, de jouir de leur liberté, et ceux qui sont au pays sont muselés. Certains ont leurs passeports qui sont bloqués, d'autres sont signalés au niveau de l'aéroport, qui ne peuvent pas voyager. Et c'est mille et une choses, mille et un problème qui aujourd'hui est en train d'affailler le peuple de Guinée, qui aujourd'hui, au-delà de cela, c'est le panier de la ménagère aussi qui est en train de grimper avec l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. Il y a mille et un problèmes aujourd'hui qui fait que le pays va mal, et il va très très mal. Il se porte très mal comme il ne s'est jamais porté depuis une quarantaine d'années.
Se porte très mal comme il ne s'est jamais porté depuis une quarantaine d'années. Attendez, cela m'amène à vous poser une question. Est-ce que c'est comment Doumbouya a fait pire qu'Alpha Condé?
Pardon?
Est-ce que Doumbouya a fait pire qu'Alpha Condé?
Absolument, absolument. Doumbia a fait pire qu'Alpha Condé, même si moi, dans mon entendement, quelqu'un ne pourra pas faire pire qu'Alpha Condé, parce que Alpha Condé a été une grosse déception, moi, à mon avis, parce que il a suscité tellement d'espoir à son avènement au pouvoir, et il n'a pas pu répondre aux aspirations quand il était à la gestion du pouvoir. Et malheureusement, le seul héritage qui pouvait nous rester, c'était l'alternance. Et cette alternance-là, il n'a pas pu nous laisser cela. Et si nul n'était l'entêtement de Alpha Condé, on n'aurait jamais eu un Doumbouya au pouvoir. Si Doumbouya au pouvoir aujourd'hui, c'est les conséquences des actions de Alpha Condé que nous sommes en train de subir jusque-là. Donc ça veut dire que quel que soit ce que fait la Doumbouya, ça sera toujours considéré comme les conséquences des actions malsaines de Alpha Condé.
D'accord, vous avez parlé tout à l'heure d'exilés forcés, hein. Donc c'est entre autres, il y a les opposants, les plus connus, entre autres Sénégal Diallo de l'UFDG, Sidya Touré de l'IFR. Au niveau du SNDC, et si je ne me trompe pas aussi, vous êtes aussi en exil à l'étranger, vous êtes en situation d'exil forcé, et Sékou Koundouno, sauf si vous me faites corriger.
Oui, absolument. Je suis sorti de la Guinée depuis Je crois le 3 décembre 2022, donc ça fait plus d'un an que je suis hors de la Guinée maintenant. Et avant ça, j'avais fait plus de 4 mois de clandestinité dans le pays. Et peut-être que vous êtes informé que j'ai même ma femme qui avait accouché, je n'ai pas eu la chance de participer au baptême de ma fille, de ma seconde fille qui est née quand j'étais en exil, quand j'étais en clandestinité. Et finalement, ma famille avait été attaquée, et après 2 mois de la naissance de cette fille, j'étais obligé finalement de m'éloigner pour moi, mais aussi pour la famille, pour ne pas qu'elle soit en danger davantage. Donc, ça a été ça. Mais au-delà de ce que nous traversons comme difficulté, comme on l'a dit tantôt, il y a des Guinéens qui sont morts, il y a des familles qui ont perdu l'unique enfant d'une famille, ou il y a des gens qui ont perdu tout l'espoir qu'ils ont dans cette manifestation-là. Nous, nous subissons, mais on ne peut pas subir plus que ceux qui ont eu des pertes en vie humaine.
Effectivement, effectivement, j'imagine, j'imagine. LFMDC, est-ce que, je rappelle, hein, les autorités quand même guinéennes, il y a un an ou plus, ont pris la décision de dissoudre le FMDC. Est-ce qu'on peut dire que on peut dire que le FMDC a été décapité aujourd'hui?
Non, le FNDC, ils ont tenté de le faire, mais malheureusement pour eux, et heureusement pour le peuple de Guinée, ils n'arrivent toujours pas à pouvoir le faire. Ils ont tenté par la corruption, ils ont tenté par nous rapprocher, ils ont compris que tout cela ne marcherait pas, et avec des propositions et autres. Parce que nous, notre vision est claire, nous pensons que nous sommes des chiens légaux de la société entre griffes, et nous pensons que nous défendons des valeurs, et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne défendent pas les valeurs que nous défendons. Donc nous ne pouvons en aucun cas nous associer à des prédateurs des libertés, à des antidémocraties. Et pour nous, il est hors de question de pouvoir courber l'échine devant ces personnes. Et c'est pourquoi vous avez vu que nous prenons toutes les précautions pour pouvoir subsister, pour pouvoir résister, mais pour pouvoir aussi porter la voix de ces citoyens qui sont opprimés. Et le pouvoir tentera toujours, il continuera à tenter de nous anéantir. Mais nous, avec le soutien des populations, avec la masse critique des Guinéens qui aujourd'hui est en train de donner quand même raison aux alertes que nous avons données depuis 2 ans maintenant, et parce que nous avons eu la chance de discuter avec ces gens-là, nous avons eu la chance de connaître leurs intentions, nous avons compris que c'était des gens qui ne sont pas venus pour permettre au peuple de choisir leurs dirigeants, nous avons compris que c'est des gens qui sont venus pour confisquer le pouvoir, et ils cherchaient des alliés avec qui confisquer le pouvoir. Malheureusement, ils n'ont pas eu ces alliés, ils n'ont pas eu le FNDC comme allié, donc forcément, nous sommes des adversaires. Et nous, par les moyens que nous avons, vu que nous sommes des démocrates, nous utiliserons toujours ce moyen pacifique-là pour pouvoir résister. Et bien entendu, avec l'apport de l'ensemble du peuple de Guinée, qui aujourd'hui, dans la totalité, est opprimé.
D'accord. Monsieur Sow, tout à l'heure, vous avez parlé de propositions et de corrections. Est-ce que les membres du FNDC ont fait l'objet de tentatives de corruption? Est-ce qu'ils ont fait des propositions, je ne sais pas moi, des postes ou de cadeaux pour que vous puissiez arrêter la lutte ou que vous puissiez vous taire ou que vous puissiez mettre de l'eau dans le vent?
Absolument, il y en a eu. Il y en a eu, et ça continue même, des propositions continuent à pleuvoir, c'est pas que ça ne continue pas, il y en a eu. Et je crois que ils ont pu peut-être avoir certaines personnes, mais ils n'ont pas pu avoir la crème des crèmes, c'est-à-dire les membres essentiels de la coordination nationale. Il y a certains membres du FNDC qui ont eu des postes de ministre, qui ont eu des postes de direction, mais les membres essentiels, en tout cas ceux qui sont connus et qui portent les voix essentielles du mouvement, n'ont jamais, jamais voulu abdiquer à ces propositions-là, parce que ça serait trahir le combat du peuple de Guinée, qui n'a rien demandé, qui n'a demandé que d'être maître du destin, c'est-à-dire avoir le choix de choisir ses dirigeants. Ils ne pourront pas trahir ça.
D'accord, d'accord. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment de l'espoir pour la Guinée dans la situation actuelle où on en est? C'est vrai qu'au niveau de la Guinée, c'est toujours Doumbouya qui gère la Guinée avec une main de fer et beaucoup, en tout cas la plupart de ceux qui pourraient l'empêcher de diriger ce pays, les opposants, les FNDC, entre autres, ils sont dehors, ils sont en exil, ils sont à l'étranger. Est-ce qu'il y a un brin d'espoir?
Bon, disons, il y a beaucoup d'espoir. L'espoir se trouve là où même se trouve le désespoir. c'est-à-dire au moment où il n'y a plus d'espérance au niveau du peuple, c'est le moment où le peuple va prendre son destin en main. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, c'est le désespoir total. Même ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas d'espoir et n'ont même plus foi au pays parce qu'ils ont compris qu'ils ont des limites, ils ont compris que le peuple souffre. Et le peuple aussi est conscient aujourd'hui de sa souffrance. Et le peuple, absolument, va vivre, ne peut pas continuer à vivre ce quotidien qui lui a été imposé, simplement parce qu'il y a des gens qui sont sans foi, ni loi, et qui sont incompétents, qui sont en train de nous diriger par la force de la baïonnette. Nous pensons qu'il n'y a pas eu d'espoir en Guinée plus que cette fois-ci, même au temps de Alpha, parce qu'il faut le rappeler. Au temps de Alpha, on n'avait pas atteint ce niveau-là, même si ce sont les conséquences des actions de Alpha, mais on n'avait pas atteint ce niveau de précarité dans notre pays. Et vous êtes là, vous échangez avec des Guinéens, peut-être que vous avez même de la famille, vous savez que ce que vous avez comme charge hier a plus augmenté aujourd'hui par rapport à la famille qui est au pays, et vous êtes conscient que le désespoir aujourd'hui, il est total. Et là où il n'y a plus d'espoir, là où le désespoir est au sommet, c'est de là jaillit l'espoir, c'est là jaillit l'espérance et c'est là jaillit le changement. Et ce changement-là viendra forcément des citoyens et c'est à eux de prendre leur destin en main. Nous allons faire ce qu'on a à faire et nous pensons que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, il y aura des actions et le peuple va agir.
D'accord. Vous dites que même ceux qui dirigent n'ont plus d'espoir, à quoi faudrait-il s'attendre?
Ben, disons que ce n'est pas ceux qui ont pris le pouvoir le 5 septembre aujourd'hui qui sont en train de nous diriger. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire parce que l'unité qui avait pris le pouvoir, c'était les forces spéciales. Et on sait que les forces spéciales du 5 septembre 2021, ce n'est pas cette force spéciale aujourd'hui-là qui nous dirige. Doumbouya a trahi les jeunes qui ont combattu avec lui, qui ont pris le pouvoir avec lui dans l'espoir de libérer le peuple. Il a trahi la vocation première de leur action, de leur prise de responsabilité, comme ils aiment le dire. Et cela ne se retrouve plus dans l'esprit de Doumbouya. Il s'est accoquiné avec sa famille et avec ses amis pour gérer le pays comme s'il était dans un état narco. Et malheureusement, il y a des patriotes encore dans l'armée guinéenne, il y a des patriotes encore au sein du peuple de Guinée. Forcément, ceux-là ne voudront pas que le pays bascule. Et pour éviter que le pays bascule, ils prendront la responsabilité. Et les Guinéens accompagneront.
D'accord. Voilà, M. Sou, nous arrivons au terme de cet entretien. Et avant, nous allons entamer la dernière partie qui concerne l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal particulièrement, où il y a actuellement une crise politique. L'élection présidentielle aurait dû avoir lieu le 25 février, mais le président Macky Sall a pris une décision pour la reporter, parce que, dit-il, il y a une crise entre le Conseil consultatif, le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Vous, en tant que membre du FNDC, donc membre de la société civile guinéenne, quelle est votre analyse de cette situation?
Bon, disons que c'est déplorable ce qui est en train de se passer et aujourd'hui au Sénégal. Le Sénégal, ce îlot d'espoir que nous avions en Afrique de l'Ouest, ce pays qui avait cette tradition de respecter l'alternance démocratique, ce pays qui, en vérité, a été toujours un pays qui, depuis l'indépendance, où il n'y a pas eu de coup d'État, ni constitutionnel, mais aussi de coup d'État militaire, quand même l'échéance des élections a toujours été respectée dans le pays, quelle que soit la manière et les crises. Et cette fois-ci, voir que ce pays bascule de la manière Macky Sall le fait basculer, avec toute la crise qu'il y a au sein de la CEDEAO aujourd'hui, avec ces trois pays où, dirigés par des militaires qui sont en train de se retirer de la CEDEAO, je trouve que c'est déplorable parce que Macky a un bilan qu'il a fait au Sénégal. Macky a beaucoup travaillé au Sénégal. Nous n'avons jamais imaginé qu'à un certain moment, avec tout le combat qu'il a mené en 2012 contre Ablaye Wade pour l'alternance démocratique, pour justement le respect des échéances électorales et le respect de la démocratie, que Macky puisse faire basculer son pays, surtout qu'à quelques jours des élections, parce que c'était le 25 février, les élections présidentielles, et nous ne voyons pas l'argument utilisé par Macky qui pourrait justifier qu'il y a une crise réelle, parce qu'il y avait déjà les listes de candidatures qui avaient été publiées par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le processus était en marche, les candidats qui ont été récalés savaient qu'ils étaient déjà récalés, ils avaient fait leur recours, les recours, je pense qu'ils avaient été rejetés par la Cour constitutionnelle. Il n'y avait absolument rien qui peut justifier aujourd'hui cette action de Macky, sinon que peut-être qu'il a compris que son camp pourrait perdre les élections à venir, et il décide, par son propre chef, de vouloir confisquer le pouvoir, de faire ce coup d'État constitutionnel, simplement parce qu'il pense pouvoir perdre le pouvoir avec son clan. Et ce n'est pas normal. C'est d'ailleurs ce que nous combattons. Et nous déplorons que cela arrive encore au Sénégal, parce que la réalité est que le souhait de tout citoyen est qu'il soit le seul qui dirige, qui a son destin. C'est-à-dire c'est le seul qui a la possibilité de choisir les dirigeants, et ce n'est pas un groupe ou un clan qui puisse choisir ceux qui doivent les diriger. Il faut le déplorer parce que nous avons beaucoup de nos amis qui sont en prison. Quand tu prends Aliou Sané du mouvement Yanama, il y a plusieurs mois maintenant qu'il est en prison. Et plein d'autres des structures de Yanama à la base, c'est-à-dire des acteurs de la société civile, au-delà de l'opposant Ousmane Sonko qui est en prison. Nous pensons que Macky devait tout faire pour apaiser la situation et puis pour respecter en fait l'échéance électorale. La seule chose qu'il y a dans ce qui se passe au Sénégal et pour laquelle il faut se réjouir, c'est que toute la classe sociopolitique du pays a pris position et est en train de faire comprendre à Macky qu'il ne peut pas à lui seul décider du destin d'un pays parce qu'il n'est qu'élu. Donc, il n'est qu'esclave des lois du Sénégal. La condamné, l'Union africaine l'a condamné, l'Union européenne l'a condamné, les États-Unis
également. Effectivement, ils ont demandé à ce qu'il revienne la date initiale, parce qu'il faut rappeler que c'est un décret qu'il a pris pour annuler un précédent. Mais vous dites qu'il ne doit pas prendre seul cette décision, mais à sa décharge, Macky Sall, quand même, sa décision a été confirmée par l'Assemblée nationale.
Oui, mais tout en expulsant les députés de l'opposition. Et puis, est-ce que ce décret, et quand vous regardez le discours de Macky qui annonce ce décret, dans ce discours, lui-même ne parle même pas de report. Je pense que lui-même, il trouve que c'était gênant de dire dans son speech de parler de report. Et il faut comprendre que, il n'y a aucune disposition de la Constitution sénégalaise qui lui permet cela, en fait. Il n'y a aucune disposition de la Constitution sénégalaise qui dit qu'il peut reporter les élections, parce que la Constitution fixe le mandat du président de la République à 5 ans, renouvelable une fois. Et en vérité, selon la Constitution sénégalaise, le mandat de Macky Sall finit en avril 2023. Et il le sait, au-delà d'avril 2023, il n'est plus légal ni légitime à pouvoir diriger le Sénégal. Donc, ce simulacre qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, qu'ils ont appelé les votes, nous pensons que ce n'est qu'un coup d'État constitutionnel qui a été confirmé par une Assemblée nationale, comme le font tous les dictateurs de la sous-région. Alpha Condé l'avait fait, il a organisé un simulacre d'élection, et tant d'autres l'ont fait. C'est la méthode des dictateurs civils qui essayent par la manipulation des textes, et pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, les textes de la CEDEAO le condamnent, parce que les textes de la CEDEAO disent qu'on ne peut pas modifier des textes électoraux ou un processus électoral à moins de 6 mois des élections. Et Macky l'a fait à moins de 2 à 3 semaines des élections.
D'accord. La dernière question, quelle serait la sortie de crise de cette situation du côté du Sénégal?
La sortie de crise serait que Macky Sall se reprenne. La balle est déjà partie, le décret a été abrogé, le décret de convocation du 25 février a été abrogé. Que Macky, peut-être, à mon avis, il y a deux possibilités. Peut-être qu'il fasse une nouvelle adresse à la nation et il réitère son appel au dialogue et qu'il réitère dans cette adresse à la nation que, à partir du 3, je ne sais pas si c'est le 3 avril ou le 6 avril, à l'échéance de son mandat, qu'il céderait le pouvoir selon l'ordre constitutionnel. Peut-être que l'intérim pourrait être assuré par celui constitutionnellement qui devrait assurer l'intérim pour que les élections soient organisées le plus rapidement que possible. Ou bien il propose une autre alternative. Maintenant que le 25 février va être intenable, peut-être que le 25 mars peut être intenable parce que le processus est déjà à son terme. Ce qui était allé être entamé, c'était à la veille des campagnes électorales. Donc, que ces campagnes électorales-là soient lancées et qu'on parte vers ces élections-là, parce que l'essentiel ici, c'est d'aller vers ces élections et faire ces élections pour que les citoyens sénégalais choisissent ceux qui doivent les diriger. Rien d'autre, je pense, ne peut apaiser aujourd'hui la situation, si ce n'est que cela.
D'accord. Merci Ablaye Oumoussou d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes, je rappelle, chargé de communication du FNDC, c'est le Front National pour la Défense de la Constitution en Guinée. Merci beaucoup.
Merci, c'est un plaisir.
Madame la Présidente, restez en ligne, vous êtes sur Africa Midi.
Guinéinfo.org, un organe, une tribune vraie. Ne ratez rien de l'actualité guinéenne sur guinéinfo.org, un média.
Il faut que c'est la sieste. Nous, nous avertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour. Mais nous avertissons aussi que nous nous battrons contre qui que tu sois qui n'agit pas bien pour l'intérêt du peuple de la Guinée.
Ce qui s'est passé en Libye avant 2011, la Libye avait un président qui était bien, qui était panafricaniste et tout ça. Et nous savons très bien aussi que cette intervention, il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit qu'il fallait évincer Radhafi, mais ce n'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé.
Voilà, au lieu de nous appeler, n'est-ce pas, et discuter avec nous, Il nous traite, n'est-ce pas, de sauvages, n'est-ce pas, de bœufs sauvages, n'est-ce pas, de rebelles. Au lieu de nous appeler. Ces rebelles-là constituent aujourd'hui l'ensemble des anciens de la République de Guinée, ça ne travaille pas en Guinée, et ils disent que nous sommes des rebelles.
Merci. Permettez, il va vous répondre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Je vais vous répondre. Ce sont d'ailleurs toutes des questions. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Demandez au président de l'UFDG. On est allé au premier tour. D'abord, je vais vous dire qu'au premier tour, aucun candidat n'a parlé du candidat du RPG. Aucun, sauf moi. J'étais le seul à dénoncer déjà ce qu'allait être la situation aujourd'hui. Au premier tour, je l'ai dit dans toutes les régions où je suis passé. Je dis, confiez le sort de la Guinée à cet homme, la Guinée se portera très mal. Donc, comme adversaire, il n'y avait que moi, hein. Les autres n'ont pas parlé de lui, ils avaient leurs intérêts ailleurs. Deuxièmement, on va à ces élections. Tout ce qui a été fait comme fraude, y compris la fraude d'installer à Figiri 6 bureaux de vote par le RPG.
D'accord. Alors, Madame Dubaté, vous avez été candidate lors des présidentielles de 2015. Je pose la question. Si vous aviez été à la place de Alpha Condé, honnêtement, vous auriez fait quoi concrètement, en quelques mots, pour faire la différence?
Mais écoutez, déjà pour faire la différence, on allait déjà mettre en place, on allait réaliser les audits. Les audits, ils sont importants. Pour la Guinée, c'est ce que le président du Nigeria a commencé par faire pour situer les responsabilités. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais c'est pour récupérer l'argent de la Guinée qui est un peu dispersé un peu partout avant d'aller demander des prêts à la Banque mondiale et au FMI. Il faut d'abord récupérer l'argent que nous avons qui est parti un peu partout et envoyer un signal fort à la communauté internationale pour dire que nous avons arrêté avec les pratiques de la corruption. Ensuite, la deuxième chose que j'allais faire pour dire que vraiment on arrête avec le système de corruption parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éliminer tout d'un coup, mais on allait travailler par exemple dans l'administration et deux secteurs principalement, les services de douane et les services des impôts, où dans ces deux secteurs, moi personnellement, j'allais décider de démonétiser la monnaie dans cet espace. Démonétiser.
Ali Ouba, c'est quoi sa principale qualité? Sans commentaire.
Il est à l'écoute des autres. Il prend en compte leur avis et il aime bien les critiques qu'on lui porte.
C'est moi qui vous êtes au pouvoir, vous avez l'administration avec vous.
Donc conclusion, si je vous suis bien, monsieur le ministre.
Oui.
Alors, si je vous suis bien, le maire politicien en Guinée aujourd'hui, c'est Cyril Alain Diallo. Est-ce que c'est bien ça?
Mais absolument. Mais le maire politicien, c'est par rapport à ta représentation sur le plan national. Que fait le maire politicien?
D'accord, j'ai envie de poser la question oui. En faisant le lien avec ce que oui. Vous avez dit sur Alpha Condé. Vous avez dit qu'en en 93 ans, il a eu 25% parce qu'il a eu des circonstances, je ne sais pas, atténuantes, parce qu'il était vu comme étant l'homme
oui,
des matchs de Malinké. Oui, justement, est-ce que c'est le cas de vexer Loudalin pour 2010? Non?
Bon, c'est Loudalin d'abord. C'est Loudalin d'abord, ce qu'il faut... Bon, moi, je n'étais pas avec lui, mais ce qu'il faut reconnaître en lui, il est venu, il a trouvé les politiciens traditionnels. À cause de son charisme, il a réussi à se positionner comme le meilleur parmi eux, ce qui n'était pas donné d'avance.
D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il a, lui aussi, il a bénéficié ou non, directement ou indirectement de... Oui, de la communauté Peul, est-ce qu'elle était venue comme sauveur aussi de la communauté Peul, selon vous?
Non, en Guinée, qu'on le veuille ou pas, le vote est d'abord communautaire. Et Alpha Condé et Loudalin Diallo, ils ont bénéficié d'un avantage, c'est certain, parce qu'ils sont représentants des ethnies majoritaires de la Guinée.
Ils vont... Ensuite, on va enchaîner sur les deux autres points de cet entretien. Quelles sont les solutions concluante de cette situation aujourd'hui. Les...
Tu peux demander au peuple sénégalais, il faut battre campagne parce que c'est la rencontre des membres avec le peuple tel que c'est parti comme ça. Je ne dis pas de tirer en long, en extension comme ça, jusqu'en décembre, ça fait quand même un troisième mandat. Et qu'on soit raisonnable, il faut battre campagne, parce que maintenant que tout le monde est au courant de cette mafia, ce n'est pas digne. En tout cas, le bilan est positif. Hein. Je dis, j'ai vu les infrastructures au Sénégal. C'est ce que je disais, au lieu d'écouter tous ces tapages en France sur l'immigration du Sénégal.
Divertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour.
L'ex-candidat Sonko, aux élections présidentielles, il faut tout écarter. Et alors, là, naturellement, c'est-à-dire l'argument de Karim Ouad, et comment ça s'appelle, c'était pour lui une aubaine, de dire que tiens, je prends la décision, l'annonce, et puis j'annonce, comment ça s'appelle, d'annuler carrément ça. C'est non seulement les réactions, quand vous regardez, par exemple, de ceux qui ont l'habitude de supporter Macky Sall dans tout ce qu'il fait au Sénégal, parce que n'oublions pas que Macky Sall, pour moi, il est pire qu'actuellement, il est pire que tous ceux qui sont dans la sous-région ouest-africaine, parce que Macky Sall, à lui seul, il a plus de 1000 prisonniers politiques en prison. Les gens en parlent très peu. Il y a 1000 prisonniers politiques. 1000 prisonniers politiques sont en prison au Sénégal. 50 personnes ont été tuées pendant les manifestations. Alors, qui est actuellement là? Même Mamadi Doumbouya, à qui on essaie de... C'est-à-dire qu'on qualifie aujourd'hui de dictateur, en Guinée, n'a pas, pour le moment, 1000 personnes en prison. Et je vous dis, et la junte militaire, là, où il y a des régimes militaires au Mali, au Burkina, il n'y a pas de 1000 opposants politiques en prison, je suis désolée.
Question, en fait,
mais quel dialogue national sur quelle base? Sur quelle base il va demander un dialogue national? Le Sénégal, jusque-là, n'était pas dans une crise électorale où il faut, c'est-à-dire où les élections n'allaient pas se tenir, où les conditions n'étaient pas réunies, comme c'est le cas, par exemple, en Guinée. Il n'y a pas, c'est-à-dire, le Sénégal ne se trouve pas en guerre, le Sénégal n'a pas en pouvoir, c'est-à-dire ce n'est pas des militaires qui sont au pouvoir. Macky Sall est venu à travers des urnes, donc c'est où, c'est-à-dire, où sont, c'est-à-dire, quelles sont les raisons pour dire que voilà, il va lancer un dialogue national. Dialogue national avec qui, pourquoi, en fait, mais les raisons, les motifs ne sont pas avérés. Il n'y a aucun motif qui explique que Macky Sall arrive à dire que voilà, je vais lancer un dialogue national. Dialogue national sur quelle base? C'est ça le problème, dialogue national sur quelle base? Mais pour lancer un dialogue national, il faut que le pays soit en crise. Mais la crise qui est là, c'est Macky Sall qui l'a voulu. Il n'y avait pas de crise.
Les partis justement, pour lui, il y a... Je vous comprends, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais pour lui, justement, il y a une crise entre ces deux institutions, puisqu'il y a
mais
même une commission
que... au niveau... Oui, mais il y a des règles dans un... Mais monsieur Ba, dans un pays, il y a des règles. Dans un pays, il y a des règles. Le Sénégal a une tradition démocratique en fait très, comment ça s'appelle, très ancrée au sein de la société sénégalaise. Et alors quand il y a, ça dit, on ne peut pas parce que tout simplement il y a ces choses qui ne me passent pas, je me lève en matin, je dis, ben écoutez, les règles qui sont là, je n'en veux plus. Et moi, je décide tout seul, tout bonnement. Même mon premier ministre n'a pas, selon les lois sénégalaises, quand une telle décision est prise, son premier ministre devrait le contresigner. S'il le signe, il le contresigne et puis il le dépose au Parlement. Aujourd'hui, on se rend compte que son premier ministre ne l'a pas signé, ça n'a pas été déposé au Parlement. Donc, aucun des députés n'a accès à ce décret que lui-même, c'est-à-dire il a signé. Donc voilà, et alors je me dis, c'est-à-dire il n'y a aucune condition normalement, aucune condition n'est réunie dans la situation actuelle qui devrait normalement pousser Macky Sall à abroger carrément, c'est-à-dire le décret portant sur l'annulation des élections. C'est ça, je me dis, mais attendez, la seule chose qui explique cela, c'est parce qu'en fait, il veut encore pour une fois tenter de rester au pouvoir au-delà de ses deux mandats. Or, la constitution sénégalaise, elle est claire là-dessus. Et là, c'est, d'ailleurs, c'est cette même constitution sénégalaise-là qu'il avait interdit lui, Macky Sall, lorsqu'il avait promis que s'il venait au pouvoir, il allait essayer de diminuer, c'est-à-dire la durée de son mandat, et c'est cette constitution lui a dit non. On ne peut pas diminuer la durée de votre mandat parce que selon cette constitution-là, non seulement la durée du mandat d'un président ne peut ni être réduite ni être prolongée, quel que soit le motif. C'est pourquoi il est resté. Donc,
c'est qui est négatif. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a rien de positif pendant ces 8 ans.
N'est-ce pas qu'on ne pouvait plus les saisir. Et voilà ce que, justement, la malignité, la duplicité et tout ce qu'il y a comme accord de positionnement des partis peut apporter. Donc je n'ai pas à dire plus parce que je sais que on traîne toutes ces querelles autour des communales, c'est à cause de ce fameux accord qui a débouché sur une loi. Je crois que l'accord était mauvais et la loi ne pouvait être que mauvaise.
D'accord, l'accord était mauvais.
Volé par des gens qui n'ont d'autre soif que l'enrichissement personnel. Eux, ils sont là, ils triment. Comment un enseignant peut aller enseigner quand il sait que le soir en rentrant ou l'après-midi en rentrant, il aura du mal à trouver un petit poisson pour sa famille?
D'ici. Mais il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui arrivent ici, compte tenu des situations très difficiles, ils n'arrivent pas à intégrer les associations, donc ils meurent. Quand ils meurent, vu que la loi allemande autorise à ce que les autorités essayent d'incinérer un corps dont les parents ne sont pas identifiés, donc nous, on s'est engagé à récupérer ces corps-là. Soit on les enterre ici selon les rites musulmans, ou bien on essaye de collecter des fonds pour ramener le corps carrément en Guinée. Donc ça, c'est pour éviter que, c'est-à-dire qu'un jeune Guinéen qui arrive ici, qu'il soit incinéré de cette façon-là, qu'il soit enterré donc de façon anonyme dans son pays. Ça, on le fait aussi. Donc voilà, c'est ça en gros.
D'accord. Très bien. Je rappelle là, du côté des
Facebook avec lesquels on travaille, donc des journalistes. Aussi avec les médias avec lesquels on travaille ici, donc toutes les fois quand on fait une action, c'est médiatisé, donc et puis c'est débattu au Parlement aussi, parce que nous-mêmes, en tant qu'ONG, on essaie de demander à ce que les comptes, ce qu'on nous rende compte et tout, et ça se fait aussi, donc pratiquement tout ce qui se passe ici, l'État guinéen est habitué à occulter les informations liées au fonctionnement de l'État, à certains accords ici, c'est pas le cas, nous on a la possibilité de poser des questions au Parlement, c'est-à-dire à travers le Parlement. C'est-à-dire qu'on pose des questions au gouvernement pour que le gouvernement nous explique pourquoi c'est comme ça. Et heureusement, d'accord. Ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est ce qui nous a eu. Moi-même, j'ai obtenu l'accord. J'ai demandé à obtenir la version française. L'État guinéen n'a pas voulu, mais j'ai obtenu la version allemande. Bon, je l'ai avec moi. Okay. Et donc, finalement, ça nous a permis en tout cas de nous préparer et tout. Et dans cette situation traumatique, entre 2020 et 2021, il y a eu même un jeune qui a commis un suicide. Voilà. Oui, Alpha Omar, paix à son âme, il s'est suicidé, c'était à Berlin. Donc, suite à cette pression-là, et franchement, et là aussi, avec ce suicide-là, nous étions seuls. Et nous étions seuls face à toute cette situation, mais on a pu quand même ramener son corps en Guinée et tout. Et puis après, on a collecté des fonds qu'on a envoyés à ses parents pour une question juste de soulager la maman parce qu'il était pratiquement celui qui portait, c'est-à-dire supportait la famille et tout. Donc, en gros, c'est pour vous dire combien de fois, c'est-à-dire comment ça se passe, quoi. Donc, voilà. Beaucoup de culture politique. Les politiciens guinéens, c'est des gens qui vivent le moment T, c'est-à-dire l'instant T. Ils ne savent pas s'asseoir, analyser une situation et tout. Ils sont entourés aussi beaucoup plus souvent de médiocres. Il faut qu'on se dise la vérité. On voit déjà ceux qui sont dans ce gouvernement-là. C'est des gens qui sont issus de cette opposition. Beaucoup parmi elles, on voit déjà comment ça s'appelle, leur comportement, leur attitude despotique vis-à-vis du peuple de Guinée aujourd'hui. Donc ça, ça prouve déjà aussi des déficiences, qu'il y a beaucoup de déficiences au niveau, c'est-à-dire au niveau de l'opposition par rapport à leur cadre et tout, parce que c'est des gens, beaucoup parmi eux en tout cas, n'arrivent pas à analyser la situation de la Guinée pour dire que voilà, faire un bon diagnostic, pour essayer de dire que voilà, c'est ça, le problème de la Guinée, c'est ça. Et comment il faut y procéder pour trouver des solutions et tout cela. Parce que quand tu fais cela en tant que parti politique, tu n'allais pas, il n'allait pas tomber pratiquement dans le piège de Mamadi Doumbouya et son clan.
D'accord. Alors, je voulais vous poser la question, mais entre-temps, je voudrais demander aux auditeurs, pour le temps qu'on est là, si tu veux leur poser des questions, appuyez sur étoile 61. Comme ça, je pourrais prendre quelques-uns dans la phase des questions et puis des commandes sur Africa Midi.
Oui, bonsoir, M. Barr.
Bonsoir, bienvenue. Vous avez notre invité, Aïssat Chérif Baldé, et puis vous avez la parole.
Merci beaucoup.
Africa!